Nous avançons dans l'étude sur le sacerdoce universel. On va en parler ce matin, comme je vous l'avais annoncé lors de la présentation des vœux. On se retrouverait ce dimanche pour continuer et mettre justement en relation le sacerdoce universel avec cette année qui est particulière pour l'Église. Je vous rappelle le verset qui nous sert de base. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Deuxième partie, verset 5 et le verset 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Trois personnes ont dit Amen. La dernière fois, nous avons rappelé que le sacerdoce est lié à la notion de sacrifice. C'est même dans sa définition. Et nous avions parlé du sacerdoce de Jésus. Jésus qui est appelé, vous le savez, dans l'Épître aux Hébreux, le souverain sacrificateur, le sacerdoce de Jésus, qui a abandonné le ciel et qui a abandonné sa vie alors qu'il était homme. En fait, on s'était basé sur le texte de Paul qui nous dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est être sacrificateur. C'est ce qu'explique l'apôtre Paul dans ce passage. Nous, souvent, on s'arrête à « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Alors, je veux être bon, je veux être honnête, je veux aimer mon prochain. Ce n'est pas de ça que parle Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Il parle du sacerdoce. Il continue en disant, il s'est dépouillé. Il a abandonné sa gloire pour venir jusqu'à l'obéissance de la croix. Et là, quand vous ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ à la lumière de la suite, vous avez un peu moins envie d'avoir les sentiments. J'ai envie d'être bon, j'ai envie d'être honnête. Mais de vivre le sacrifice que Jésus a vécu, j'en ai moins envie, hein, pas vous. Et pourtant, nous sommes appelés à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ qui veut, on l'avait dit, comme il l'a dit à Pierre, il veut bâtir son église sur toi. Sur toi, je bâtirai mon église. Ce n'est pas réservé à Pierre, c'est à chacun d'entre nous. Je résume ce qu'on avait vu juste avant Noël. Et puis, nous avions parlé, justement pour les vœux, de la même chose, l'abandon de soi, mais l'abandon de soi pour travailler au salut des âmes. Donc je vous rappelle, année 2023, année de la moisson. Ok ? On va l'enregistrer dans nos têtes. 2023, c'est l'année de la moisson. Je vais juste vous dire quelque chose. C'est vrai que si on sème, on ne peut pas avoir la garantie d'avoir une moisson. C'est vrai ou pas? Malheureusement, on aimerait qu'à chaque fois qu'on sème quelque chose, ça marche. La plupart du temps, ça marche. Mais il y a des fois où il n'y a rien. Mais cela ne dépend pas de celui qui a semé. Par contre, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que si on ne sème pas, il n'y a pas de moisson. On est d'accord avec ça? Là, on est devant une certitude. Et si nous voulons vivre la moisson, l'année de la moisson, ce n'est pas juste de dire « Ah, on l'a déclaré et on attend qu'elle vienne ». Le Seigneur nous appelle à semer. Et pour cela aussi, il faut l'abandon de soi. Comme Jésus l'a fait, rappel, le sacerdoce, c'est un sacrifice. Je suis sacrificateur, je sacrifie ma vie sur l'autel au service de Jésus-Christ et au service de tous les non-croyants pour qu'ils connaissent Jésus-Christ. Et il faut, pour que je sois capable de le faire, nous l'avions dit donc dans ce message de la nouvelle année, d'avoir à nouveau les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ce sentiment que nous devons avoir, c'est cette compassion, cet amour fou qui vient nous bouleverser jusqu'au fond de nos entrailles pour les foules sans berger. Vous connaissez le texte de Matthieu 9, où Jésus fut ému de compassion. Ça part de là, mes frères et sœurs. S'il n'y a pas cette émotion de compassion, on sera capable de faire aucun sacrifice. Si c'est complètement indifférent pour nous de voir des gens perdus à côté de nous, on ne va pas se soucier de voir qu'est-ce qu'on peut sacrifier pour aller vers eux. Et sachez qu'il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour aller vers les perdus. Il y a des gens qui le font. Ils ont fait une croix sur leurs loisirs, ils ont fait une croix sur plein de choses. Et ils ont dit, moi je veux m'occuper des perdus. Que le Seigneur nous y aide. On va continuer d'aller dans ce sens en voyant ce matin ce qu'est un sacrificateur. On a commencé à voir un peu comment cela s'agençait dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'était le sacrificateur, etc. Là, ce matin, j'aimerais qu'on voit le rôle principal du sacrificateur. Quel est son rôle principal ? Le rôle principal du sacrificateur, c'est de mettre l'homme en relation avec Dieu. Le livre du Lévitique, ce n'est pas un livre qu'on va voir spontanément. Mais je vous assure que c'est un livre extraordinairement riche. Parce que justement, il donne pour l'époque tous les codes pour pouvoir se mettre en relation avec Dieu. Et les sacrificateurs étaient chargés d'enseigner, de pratiquer ces codes pour le peuple. Ils avaient aussi le rôle d'expliquer la loi au peuple. Ils permettaient aux hommes de s'approcher de Dieu en offrant pour eux des sacrifices. Dans le langage d'aujourd'hui, on appelle ça l'évangélisation. Aller expliquer la parole aux hommes, aller leur montrer comment on peut rencontrer Dieu, et notamment au travers du sacrifice de Jésus, c'est notre rôle et c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Est-ce que vous connaissez le nom qui est donné à ce lieu où les sacrificateurs exerçaient leurs fonctions? La totalité de lieu s'appelait comment? Le tabernacle, plus exactement. Il y a un nom particulier. La tente d'assignation, c'est exact aussi. La tente de la rencontre. En fait, ce que nous devons désirer, c'est que les non-croyants autour de nous puissent rencontrer Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? On veut les amener à la rencontre de Dieu. On ne veut pas les amener à adopter notre point de vue, nos croyances, nos convictions. On veut les amener à entrer en relation avec Dieu. C'est pour ça que quand vous offrez une Bible à quelqu'un, vous lui donnez une occasion de pouvoir entrer en relation avec Dieu, par exemple. Dans cette tente de la rencontre, il y a un message qui est omniprésent, c'est le message de la croix. Il y a des prophéties dans l'Ancien Testament qui nous parlent, vous connaissez Isaïe 53, le psaume 22 et autres, qui nous parlent de la croix. Mais il n'y a pas que les prophéties qui en parlent, il y a plein de choses. Et dans le tabernacle, si vous commencez à faire l'étude du tabernacle, vous allez voir Jésus partout. Vous allez voir Jésus et la croix partout. Je vous ai mis quelques exemples. Est-ce que vous savez ce qui se trouve à gauche de l'image? Oui? Non. Si ce n'est pas l'autel des parfums, c'est quoi? Oui. L'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes. Donc ça, c'est ce qui se trouvait à l'entrée. À l'entrée, quand on entrait dans les parvis, la première chose qu'il y avait, c'était l'autel des holocaustes. C'était la signification qu'il y avait besoin d'un sacrifice pour s'approcher de Dieu. Donc je vous laisse faire le parallèle. Après, quand on rentrait, on allait un peu plus loin, on rentrait dans le lieu saint. On avait sur la gauche, ce qu'il y a en bas de l'image à droite, le chandelier. Le chandelier représente, c'est la seule source de lumière. Et la lumière, nous savons qui c'est. C'est Jésus. Et les pains de proposition en haut, qui étaient sur le côté droit, symbolisent aussi Jésus qui a dit « Je suis le pain de vie ». Amen. Jésus est partout dans l'attente de la rencontre. Et donc dans nos discussions pour amener les gens vers dans la relation avec Dieu, Jésus doit être omniprésent. Et la croix aussi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. En fait, Jésus est venu réconcilier les non-croyants que vous connaissez avec Dieu. En fait, ils sont fâchés avec Dieu, ou ils ont des choses à reprocher, ou ils disent... Mais on a besoin de leur expliquer que cette relation peut être rétablie, et elle a été rétablie par l'intervention du Christ qui est venu sur terre et qui a donné sa vie et qui a réconcilié le monde avec son Père. Amen. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle que nous sommes amenés à partager. Et on va voir que ce n'est pas la seule raison qui doit nous amener à partager. Deuxième point que je veux voir avec vous, c'est que le sacrificateur, pour remplir son rôle, il doit d'abord lui-même vivre cette relation. Il faut savoir que les sacrificateurs offraient des sacrifices pour eux-mêmes aussi, hein, pour leur famille, pour le peuple, mais aussi pour eux. La première chose qu'il doit faire, c'est nourrir une relation étroite avec Dieu, ce qui l'amènera à la sanctification. Le parcours de la sanctification, c'est quelque chose d'essentiel. Si vous n'y pensez pas, vous êtes simplement en train de vivre d'une manière religieuse. Nous devons penser à la sanctification. La sanctification, c'est s'approcher de Dieu et se laisser transformer par lui. Avoir conscience qu'on a toujours besoin encore de progresser. Ne jamais arriver en disant « Oh, je suis un bon chrétien quand même ». C'est pas mal. Mais toujours être en demande pour aller plus loin. Il y a des exemples de sacrificateurs qui se sont mal conduits et ça s'est mal fini pour eux. Nous avons besoin de veiller à notre témoignage. Alors vous allez me dire, ouais, c'est gentil, pasteur, j'essaye, mais vous savez ce qu'il a été dit, Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez des bons chrétiens. Vous pourrez mettre le feu dans l'église quand vous priez. C'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit. C'est pour être des témoins. Pour remplir le rôle du sacrificateur, amener les gens à rencontrer Dieu. Sans le Saint-Esprit, on va être bien embêté. Mais si le Saint-Esprit est avec nous, nous allons pouvoir voir les effets dans les semences que nous allons semer. Je vous rappelle que les sacrificateurs, on l'a vu déjà, Exode chapitre 30, verset 30, on le voit aussi dans le livre du Lévitique, les sacrificateurs étaient oints. Ils ne pouvaient pas servir sans l'onction. Et donc, cette onction sur toi, elle va te permettre d'être un témoin. D'abord, premièrement, parce que tu vas manifester le fruit de l'Esprit. On peut faire le parallèle, on revient à la sanctification. Comment vive la sanctification? Eh bien, par le souffle de l'Esprit. On en a parlé ce matin dans les chants. Et je veux vous encourager à réclamer ce souffle sur vos vies avec encore plus d'enthousiasme que ce que vous l'avez fait ce matin. Ça doit être quelque chose qu'on désire comme quelqu'un qui a passé des jours dans le désert et qui commence à voir un oasis et qui court et qui voit de l'eau. Il ne va pas faire... fait du bien. Il va plonger, il va en vouloir. Et en fait, c'est la même attitude, cette soif qu'on doit témoigner vis-à-vis de l'onction de la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Sinon, qui est capable de cocher toutes les cases ? Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Et je vois que vous hochez tous la tête en disant « Oui, oui, je gère. » C'est bien. Sans le Saint-Esprit, on est incapable de faire ces choses. Mais avec le Saint-Esprit, grâce soit rendue à Dieu, nous avançons dans tous ces domaines. Et le Seigneur nous permet d'avancer dans tous ces domaines. Et ne nous arrêtons jamais d'avancer. Il y aura toujours du travail à faire. Amen. À la Pentecôte, nous lisons dans le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup. Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent, quelques-uns d'entre eux, remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ah bon, vous m'avez fait peur là. S'il n'y a personne qui réagit, quelques-uns d'entre eux, tous. Donc si toi tu t'es dit que c'est pour les autres, la manifestation de l'esprit, tu n'es pas en accord avec ce que dit la parole. C'est pour tous, tous. Et moi je prie qu'on ait des réunions où tous repartent remplis du Saint-Esprit. Amen. Et à chaque fois que vous êtes rempli du Saint-Esprit, ne repartez pas en disant « Ah, ça y est !» Non, non, il faudra recommencer. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême d'eau. Hein. Ce n'est pas une seule fois. Dans Ézéchiel 46,15, il est parlé d'une offrande qu'on apporte. On offrira tous les matins, l'agneau et l'offrande avec l'huile, comme holocauste perpétuel. Mes frères et sœurs, l'offrande aujourd'hui, c'est ma vie. Et ma vie, je dois la porter tous les jours. Est-ce que vous le faites ? Est-ce que tous les matins, vous dites « Seigneur, j'apporte ma vie afin que tu te serves de moi dans cette journée ?» Si vous faites ça, vous n'êtes pas loin d'être sans péché. Hein ? C'est vrai ? Parce que ne pas pécher, c'est ne pas manquer le but. Donc si chaque matin vous êtes soucieux de faire ce que Dieu vous demande, vous vous rapprochez de l'exemple de Jésus. Si le matin vous levez, et puis je fais comme ça vient, comment voulez-vous faire la volonté de Dieu ? Et vous apportez votre vie avec l'huile. C'est-à-dire, je mets ma vie devant toi, Seigneur, remplis-moi. Mets de l'huile sur mon offrande. Sinon, tu vas me demander de faire des choses et j'en serai pas capable. On l'a chanté, ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit. Amen. L'offrande, c'est toi. Tu dois porter ta vie devant Dieu chaque matin pour que Dieu se serve de toi. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Moi, je confesse devant vous qu'il y a des matins où je ne fais pas cette prière. Et je voudrais que le Seigneur m'aide à la faire tous les matins. Ne jamais passer un matin sans dire au Seigneur, aujourd'hui, je veux faire ta volonté. Je veux que tu conduises mes pas. Je veux que tu me donnes de rencontrer des personnes à qui je pourrais partager l'évangile. Le troisième et dernier point que je veux voir avec vous ce matin, le sacrificateur enseigne qu'il faut un sacrifice pour s'approcher de Dieu. Je pense que c'est un élément important. Attention, on est sacrificateur, on doit amener les gens à rencontrer Dieu. Vous avez bien compris, on a tous compris ça. Mais on peut les amener de différentes manières. Et il y a une manière qui n'est pas populaire. C'est de dire, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu dans l'état où vous êtes. Vous avez besoin d'un sacrifice, comme c'était le cas dans l'Ancienne Alliance. il y a besoin d'un sacrifice pour que vous rencontriez Dieu. On peut dire aux gens, ouais, prie le Seigneur. Tu vas grandir dans l'estime de toi. Tu vas t'épanouir. Il y en a même qui disent, tu vas devenir riche. Est-ce que c'est ça le message qu'on doit donner ? Le message qu'on doit donner, c'est celui de la repentance. Le sacrifice, il fait penser à quoi ? À la repentance. Parce qu'il nous rappelle que par notre propre état, sans le sacrifice, on ne peut pas rencontrer Dieu. Et je pense qu'on a besoin d'expliquer ça aux gens. Si ce n'est pas reçu, ce n'est pas grave. Nous, on a semé. Mais on peut pas, on va pas leur dire toute la vérité, sinon ils vont de suite être... Non. Il faut expliquer aux gens, tu as besoin. Alors bien sûr, on va tisser une relation de confiance, on va avoir une relation d'amitié avec les personnes avant de leur dire ça. Mais au bout d'un moment, on devra leur dire, tu as besoin de demander pardon pour tes péchés, tu as besoin de demander que Dieu te change, de t'approcher de la croix. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à l'ancienne alliance, il n'y a pas besoin d'apporter un sacrifice. Parce que le sacrifice a eu lieu. Amen. Mais s'il a eu lieu et qu'on n'a rien à faire, nous, de notre côté, on ne doit pas s'approcher de Dieu sans penser à ce sacrifice qui a lieu. Sinon, ça ne va pas. C'est pour ça que Dieu a dit, faites ceci en mémoire de moi, et qu'encore ce matin, nous sommes remémoré la croix. C'est important. On ne peut pas passer une demi-heure à louer le Seigneur, alléluia, alléluia, et puis ne pas penser à la croix. Ce serait odieux. Ce serait méprisant. Moi, je me régale de louer le Seigneur, mais à chaque fois, je dis, Seigneur, mais c'est incroyable que je puisse vivre ces moments, alors que je devrais me cacher devant ta face. Et toi, tu me permets de te louer, de vivre la communion avec toi. C'est extraordinaire. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il est dit « Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Les gens doivent le comprendre pour comprendre pourquoi Jésus est mort. Ils ont besoin d'être pardonnés, et il fallait que le sang soit versé, et Jésus a versé son sang. Dans Hébreux 10, 14, il est dit que par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Une seule offrande. Il n'y a plus besoin de renouveler toutes les offrandes comme c'était le cas. Une seule offrande a suffi. Pourquoi ? Parce que le sacrifié était parfait. Il était parfait, sans défaut. Hébreux chapitre 10, verset 19, nous dit, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Si les gens veulent rencontrer Dieu d'une manière libre, ils doivent d'abord passer par la croix. Encore une fois, c'est Jésus que nous devons présenter. Vous voyez sur l'image le voile déchiré. Je ne sais pas, reviens en arrière. On distingue le voile dans le temple qui est déchiré. Ça, c'est quand Jésus a donné sa vie sur la croix. Ce voile, il était entre le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint où on ne pouvait pas rentrer, sinon on mourait. Parce que la présence de Dieu, on ne peut pas la supporter sans mourir. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait y entrer une fois par an parce que Dieu lui donnait l'autorisation. Sinon, c'était impossible. Aujourd'hui, le voile est déchiré. On peut tous y rentrer. C'est incroyable. Incroyable. Mais il faut passer par le sacrifice, par la croix. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Dans l'évangile de Jean, il déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Voilà. Je voudrais, sur cette question du chemin, vous expliquer les choses par rapport au tabernacle. On va voir trois schémas. J'espère que ça va vous aider à comprendre. Alors, je vais m'approcher de l'écran parce que malheureusement, je n'ai pas pu grossir davantage. Donc, le tabernacle, il est en trois parties. Vous avez le grand rectangle là, c'est la clôture, ça définit la clôture du tabernacle, et ce qu'il y a devant s'appelle le parvis. D'accord ? Et ensuite, il y a la tente au milieu, où il y a un premier espace qui est le lieu saint, donc où il y a, on l'a dit tout à l'heure, les pains de proposition, le chandelier, il y a l'autel des parfums ici. Et puis, il y a le lieu très saint, où vous avez dedans l'arche de l'Alliance, où là, il y a la présence de Dieu. Ok ? Donc en fait, si vous regardez le schéma, t'es pas sur le bon truc là. Reviens en arrière, voilà. Hop. Oui, il y a un truc qui a pas gazé là. Bon, vous allez, oui, voilà, si c'est bon, pardon. Donc en fait, sous l'ancienne alliance, l'homme pouvait s'approcher juste dans les parvis. Il apportait ce qu'il fallait. Le sacrificateur faisait les sacrifices. Bon, d'abord, il y a l'autel pour se laver les mains, là, la cuve des reins pour se laver les mains. Après avoir fait tout ce qu'il fallait, il pouvait offrir les sacrifices. Et puis lui pouvait rentrer dans le lieu saint et le souverain sacrificateur une fois par an dans le lieu très saint. Donc vous voyez qu'il y a homme, sacrificateur, souverain sacrificateur. Donc chacun a ses endroits où il peut aller et c'est très cadré. Jésus, lui, il vient. Vous regardez, c'est plus simple. La flèche, vous avez vu qu'elle n'est pas dans le même sens ? Jésus fait le parcours inverse. Lui, il est là-haut, dans le ciel, dans la présence de Dieu. Il est dans le lieu très saint. Il accepte de sortir de là, de faire le parcours inverse et de porter sa vie sur l'autel des sacrifices. Je ne sais pas si ça vous aide à imaginer. On l'a dit, je ne saurai jamais le prix que tu as payé. Mais moi, cette image, elle me bouleverse. Jésus fait le chemin inverse. Il part de la gloire du Père et il vient s'offrir en sacrifice. Il se met à la place du bouc, du bélier, de l'agneau. Et du coup, passe à la diapo suivante. Donc, on retrouve celle de Jésus. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Nous sommes tous devenus sacrificateurs et nous avons tous accès au lieu très saint. Voilà le miracle de la croix. Et j'aimerais qu'on puisse l'expliquer aux gens. Que le Seigneur nous donne l'intelligence par l'Esprit de montrer combien son œuvre est grande. Et que les gens puissent ouvrir leurs yeux. Vous savez, priez pour les personnes à qui vous parlez comme Élisée, il a prié pour son serviteur. S'il te plaît, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Faites cette prière. Si Dieu ouvre pas les yeux des gens, vous pourrez argumenter, faire même des schémas, ça rentrera pas. Que Dieu puisse ouvrir les yeux, que Dieu puisse vous ouvrir les yeux aussi. Il y a plein de choses qu'on n'a pas compris encore. Vous avez tout compris, vous, sur Dieu ? Qu'il nous ouvre les yeux encore. Amen. Hébreux 9, 15, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. L'héritage éternel, c'est la présence de Dieu. C'est la communion avec Dieu. C'est nous en vivons les arts, les prémices. Ici, quand nous nous réunissons, quand nous chantons comme tout à l'heure, nous vivons les prémices. Et puis nous sommes appelés, l'héritage, ce sera quand on sera tout le temps avec lui. Le lieu très saint sera en permanence. On fera partie du lieu très saint. On n'y entrera pas. On fera partie du lieu très saint. Ça va être extraordinaire. Je conclue. Jésus a dit à un homme un jour, « Tes péchés te sont pardonnés. » Vous pouvez me rappeler à qui il a dit ça ? Vous allez me dire, il n'a pas dit qu'il y a une personne. Non. C'est à un moment où il a dit ça, où c'était très étonnant qu'il le dise. Oui, tout à fait. Quand on lui amenait un paralytique, on lui amène un paralytique. Et Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et là, plus personne ne comprend rien. Et en fait, le premier besoin dont on doit se préoccuper, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est qu'ils puissent être pardonnés de leurs péchés. C'est vrai que on a autour de nous des gens qui sont malades, on a des qui ont des problèmes. Et souvent, on vient, on dit, ouais, mais Dieu peut donner la solution à tes problèmes, etc. Parlons-leur d'abord de leur salut. C'est le plus important. Jésus ne perdait pas de temps. Bien sûr, vous le savez, dans le récit, hein, on lit le verset 24. Alors, afin que vous sachiez, parce qu'évidemment, il est contesté le fait qu'il pardonne les péchés, puisque Dieu seul peut le faire. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et c'est ce qu'il a fait. Mais Jésus déclare qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et moi, sur mon chemin, je veux dire à ceux qui m'entourent, tu es pécheur. Alors, je ne vais pas leur dire d'une manière aussi brutale, mais leur faire comprendre qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être pardonnés. C'est ça, là, c'est ça vraiment semer, les frères et sœurs. Ce n'est pas juste parler de Dieu comme ça, qu'il peut t'assurer un bien-être, qu'il est sympa. Il faut aller au cœur du problème de l'évangélisation. C'est que les gens doivent prendre conscience qu'ils sont pécheurs. Il y a une parabole qui est celle du bon samaritain, que vous connaissez, où il est dit que des sacrificateurs, des lévites sont passés, ils ont vu cet homme en souffrance. Cet homme en souffrance, c'est l'image de l'homme d'aujourd'hui. Là, il était sur un chemin entre Jérusalem et Jéricho, qui est réputé pour être un chemin très escarpé, montagneux, où évidemment c'est propice à des attaques de brigands, etc. Et en fait, c'est l'image de quoi, ça ? C'est l'image de la vie. La vie, est-ce que c'est un long fleuve tranquille pour vous, mes frères et sœurs, mes amis ? C'est un long fleuve tranquille ? C'est pas du tout escarpé, c'est bien plat, zéro problème ? Non. Et à chaque fois qu'on est dans les endroits escarpés où on galère, il y en a un qui vient. C'est les brigands qui viennent égorger, détruire, mais il y en a un qui est qualifié d'égorgeur, destructeur. C'est le diable. Il vient, il nous attend à ces moments-là. Et il nous attire dans des mauvaises choses. C'est l'histoire de tous ceux que nous côtoyons, mes frères et sœurs. Et on peut passer comme des hommes religieux en disant « des pécheurs ». Où est-ce qu'on peut avoir cette compassion ? Il est parlé aussi de la compassion du Samaritain. Cette compassion de Jésus qui, lui, ne passe pas son chemin devant un pécheur, devant quelqu'un en souffrance. Il s'arrête. Et lui porte les soins. L'huile, image de l'esprit. Le vin, image du sacrifice de Jésus. On en revient toujours aux mêmes choses. Et Jésus, à chaque fois qu'il va rencontrer quelqu'un, il va lui parler de la repentance. Je pense à Zachée, par exemple, d'autres. Pierre et Jean, qui s'arrêtent devant le temple. Ils allaient à la réunion de prière. Ils auraient pu dire, ah, on est en retard. Désolé, on ne peut pas. Il s'arrête. Si à un moment donné, vous avez l'occasion de pouvoir prêcher l'évangile à quelqu'un, alors qu'il y a une réunion de prière en même temps, choisissez de prêcher l'évangile. Choisissez de prêcher l'évangile. On est d'accord ? La priorité, c'est ça. Ou même le dimanche matin. Après, ne vous arrangez pas pour avoir des rendez-vous au moment où il y a les réunions. Ça, de toute façon, ça ne me regarde pas. Vous réglerez ça en tête à tête. Je pense à Paul qui rencontre ce geôlier. Au moment où il lui a mis les fers et qu'il l'a maltraité, il ne se doutait pas que quelques minutes après, il allait lui prêcher l'évangile et qu'il allait se convertir. On est même appelé à aller vers ceux qui nous font souffrir en souhaitant leur salut. Amen. Je termine avec cette parole que Jésus a donnée à Pierre. Ce n'était pas le meilleur moment de la vie de Pierre. Il venait de se rendre compte qu'il était sale, qu'il était pécheur, qu'il était mauvais. Il tombe à genoux devant Jésus et lui dit « Retire-toi de moi, je suis pécheur !» Et nous, on se dit tous « Oh bah ouais, quand même, il a raison de dire ça. Allez, Jésus, va-t'en parce que... » Et Jésus choisit ce moment-là pour prophétiser et dire « Tu seras pécheur d'hommes. Tu vas amener des âmes à Jésus-Christ. » C'est ça que ça veut dire, pécheur d'hommes. Tu vas amener des âmes à Jésus-Christ. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie. Peut-être tu dis, je ne suis pas à la hauteur. Mais moi, je sais que Dieu prophétise sur chacun de nous en disant, tu seras pécheur d'homme. Il n'y a pas un qui fait, hop, ah non, là, je passe. Lui, pas capable. Ah, lui, il est passé bien. Lui, vous croyez que Jésus fait ça? Son plan pour chacun de nous, je m'adresse aux ados aussi, aux plus jeunes d'entre nous, je m'adresse aux personnes âgées qui peut-être ont dit, oula, c'est bien ce qu'il dit le pasteur, mais moi, à mon âge... Vous êtes destinés à être pécheurs d'hommes. Amen. Tous, on est tous, on va tous se lever en 2023, on va sortir nos outils de pêche et on va être des pêcheurs d'hommes. Amen. Gloire à Dieu. Pierre venait de vivre la pêche miraculeuse et quelques temps après, il vivra une autre pêche miraculeuse à la Pentecôte où il va annoncer la parole et 3000 personnes vont se convertir. Plus de poissons que ce qu'il avait dans les filets. Amen. Dieu est grand, mes frères et sœurs. Il veut nous utiliser, chacun d'entre nous. Et vraiment, je prie avec Valérie, on prie que cette année, l'Église se lève pour aller semer, comme jamais elle ne l'a fait. Je ne dis pas que rien ne s'est fait dans les années passées, mais je crois qu'il y a une prise de conscience à avoir. Il faut qu'on fasse des sacrifices, il faut qu'on fasse des choix pour dire la priorité, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans ta famille, dans ton voisinage, parmi tes collègues de travail, prends le temps de les inviter. Prends le temps. Je vous rappelle que quand je suis arrivé ici, je n'ai pas mis de réunion d'évangélisation le dimanche après-midi. Et la raison pour laquelle je l'ai fait, j'ai dit l'évangélisation, c'est à chacun de nous de la faire. Et j'aimerais vous encourager à consacrer vos dimanches après-midi pour inviter des personnes qui ne sont pas converties chez vous. Faites-le. Ne partez pas en disant « Ah, c'est cool, on n'a que le culte ». Allez, farniente, ou je vais à la pêche, mais l'autre pêche, ou je vais faire du foot, ou je sais pas quoi. Non, non, non. Seigneur, je veux consacrer, c'est ça, le sacerdoce. C'est pas je donne du temps quand je peux, quand il m'en reste. C'est je fixe le temps que je donne à Dieu, et après je fais avec ce qui me reste, je fais ce que j'ai à faire pour moi. C'est ça. Je ne suis pas populaire ce que je suis en train de vous dire. Mais je peux vous assurer que c'est ça le message de la Bible. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à ressembler à cette veuve qui a donné, pas de son superflu, mais de son nécessaire. Je prends de mon temps qui m'est utile pour le donner. Amen. Seigneur, rends-nous capables de ces choses. Amen. On prie ensemble. Je te remercie, Seigneur. Je sais que dans le cœur de mes frères et sœurs, il y a cette volonté. Nous avons tous cette volonté que des âmes se tournent vers toi. Mais Seigneur, on veut prendre l'engagement en 2023 d'arrêter de juste le souhaiter, d'arrêter de juste prier pour ça, mais de nous mettre à l'œuvre. Tu l'as dit toi-même, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Seigneur, que ce ne soit pas vrai pour l'église de Colomiers, s'il te plaît. La moisson est grande. Ça, c'est vrai pour l'église de Colomiers. Et Seigneur, je veux croire qu'il y aura beaucoup d'ouvriers en 2023. Je veux le croire par la foi, Seigneur. Parce que tu es celui qui parle à nos cœurs, qui va nous aider. Moi, le premier, Seigneur, aide-moi à faire les bons choix dans mon ministère pastoral pour davantage accorder du temps à ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, oui, conduis-nous vraiment par ton esprit. Que le souffle de Dieu vienne et nous apprenne quelles sont les priorités. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, s'il te plaît, afin que nous voyions ce que toi tu vois. Sois béni et glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, que le nom du Seigneur soit glorifié.